le protestantisme en Afrique de l'Ouest, l'Église méthodiste unie de la Côte d'Ivoire. Le pasteur Philippe Adjobi, surintendant du district Abidjan Sud pour l'Église méthodiste unie de la Côte d'Ivoire, est historien de son Église. Il rappelle que l'EMUCI, l'Église méthodiste unie de la Côte d'Ivoire, est la dernière église implantée en Afrique de l'Ouest, après le Bénin et le Togo. Ce sont les anglophones qui se sont les premiers installés dans ce pays autour de 1870, dans la région frontalière avec le Ghana. Le pasteur Philippe Adjobi nous donne là un cours d'histoire dans lequel on apprend que l'EMUCI s'appelle dans un premier temps Église protestante pour marquer la mission française et méthodiste pour dire la partie anglaise.
Je suis le pasteur Philippe Adjobi. Je suis le pasteur surintendant du district d'Abidjan Sud, l'un des quatre districts, n'est-ce pas, du district d'Abidjan Sud, enfin d'Abidjan. J'en suis le premier responsable au niveau d'Abidjan Sud. Et je m'occupe aussi des questions d'histoire, d'édition, littérature et puis de liturgie aussi. Dans l'espace francophone en Afrique occidentale particulièrement, nous sommes la dernière église parce qu'il y a le Bénin était avant nous, ensuite le Togo et nous sommes vraiment la fille de ces deux églises sœurs. Alors, nous sommes des méthodistes. Notre histoire est partie de l'environnement anglophone, des pays frontaliers anglophones de la Côte d'Ivoire, avec le Ghana à l'est, le Libéria à l'ouest, derrière le Libéria, la Sierra Leone, et puis du côté de l'est aussi, derrière le Nigeria. Donc c'est... Ce sont les anglophones qui ont été les premiers à infiltrer la Côte d'Ivoire, particulièrement les Ghanéens. C'est autour des années 1870, de façon tout à fait sommaire. L'église n'était pas encore installée. Quand ils entraient en Côte d'Ivoire, l'église était reconnue comme une église, une expansion de l'église méthodiste du Ghana. Et c'est comme ça que les choses ont évolué. Du côté de Abouasso, alors la région d'Abouasso, la région frontalière avec le Ghana, c'est par là que les choses ont commencé à se faire. Celui qui a marqué cette époque-là, autour des années 1914, c'est celui qu'on a appelé le prophète William Wade Harris. C'est un natif libérien qui avait reçu une éducation méthodiste épiscopale du côté de Libéria et qui, par moment, a eu cette vision de, lorsqu'il était en prison pour des problèmes politiques, parce qu'il était un peu, que c'était subversif, faisait un peu la politique pour sa région. Et les Anglais, alors, les autorités du Libéria n'ont pas accepté cela et l'ont mis en prison. C'est au coup en prison qu'il a eu sa vision pour évangéliser la basse côte de la Côte d'Ivoire. Oui. Et il est sorti de la prison et s'est voué vraiment à cette mission de façon tout à fait extraordinaire, de façon spectaculaire, j'allais dire, parce que son passage a été un passage qui a ouvert vraiment la mission chrétienne en Côte d'Ivoire. Parce que lorsque ce monsieur est passé les années 1914, 1915, on situe à cette période-là, eh bien, lorsqu'il est passé, ça a permis à toutes les missions catholiques qui étaient déjà en Côte d'Ivoire, qui peinaient vraiment à amener les Ivoiriens à la foi chrétienne, ainsi que les anglophones aussi, qui avaient essaimé les premières communautés en Côte d'Ivoire, qui avaient aussi beaucoup de difficultés. Lorsque Harris est passé avec tout ce qui a accompagné son ministère, beaucoup de miracles, beaucoup de puissance, charismatique, qui a accompagné son ministère, cela a ouvert vraiment la voie à la mission chrétienne en Côte d'Ivoire. Donc son passage a profité pratiquement à toutes les églises, à l'église catholique, à l'église méthodiste. Et puis après lui, les gens ont été tellement marqués par son passage qu'il y a un groupe qui s'est constitué en une église pour le représenter. On appelle l'église Ariste, hein, l'église qui porte donc le nom d'Ariste lui-même. Et donc, après son passage, cela a été en tout cas très bien, bien vu. Et les premières communautés méthodistes anglophones qui étaient en Côte d'Ivoire avaient été vraiment boostées par son passage. Et du côté de l'église méthodiste du Ghana, en 1914 aussi, pratiquement à la même période, une décision a été prise pour organiser les églises méthodistes qui se sont trouvées sur le sol ivoirien. L'église méthodiste du Ghana a bien voulu créer la mission de Côte d'Ivoire, une mission rattachée à l'église méthodiste du Ghana. Hein, après le passage de Milan Odearis, du fait qu'il y a eu beaucoup de convertis, les communautés étaient vraiment renflouées en membres, beaucoup de fidèles, et donc le Ghana a pris cette décision en 1914. Alors nous, dans notre histoire ici, lorsque nous parlons d'histoire, nous commençons notre histoire à partir de 1914 justement, à cette année-là où, de façon officielle, la décision a été prise à un synode de l'église méthodiste au Ghana de faire de la Côte d'Ivoire une mission. Donc on se base sur 1914.
Année fondatrice.
Ouais. Mais qui coïncide aussi avec le passage de William Wadiaris. C'est vrai que c'est lui qui a boosté les choses. Mmh. Mais nous partons du fait que en 1914, la mission avait été vraiment organisée
par l'Église. Ça commence à s'installer avec des temples et tout cela.
Voilà. Et ça, c'est le Ghana qui a pris cette décision. D'accord. En faveur de la Côte d'Ivoire. Mmh. C'est ce qui fait que nous situons notre départ vraiment de façon officielle en 1914. Et puis c'est de là que nous avons évolué. Alors, cette église qui était donc là était supportée par était l'église des anglophones, les missionnaires anglais qui venaient donc au Ghana, débordaient le Ghana pour venir en Côte d'Ivoire pour s'occuper des communautés. Et puis en 1923, par là, la lutte du territoire de la Côte d'Ivoire entre anglais et français a été vraiment un problème. Et si bien que, voyant toujours les anglophones infiltrer le territoire de Côte d'Ivoire, le colon français a décidé qu'on arrête la mission. Que toutes les églises qui existent sur le territoire de Côte d'Ivoire devraient normalement parler, le culte devrait se faire en langue locale ou bien en français.
D'accord.
Mais il n'est plus question de parler les langues du Ghana et même l'anglais, que les cultes se passent en français. Et là-dessus, là, il y a eu beaucoup de difficultés pour les premiers dirigeants de ces églises, premières églises-là. Et donc, ils ont eu vraiment maille à partir avec l'administration coloniale qui, finalement, a décidé de fermer les temples là où, là où on continuait d'adorer dans les langues du Ghana et en anglais. Donc, en 1923, les temples ont été fermés. La mission a été fermée, en quelque sorte. L'administration coloniale a décidé de fermer les temples. Ça a été vraiment un émoi pour les méthodistes ghanéens, qui étaient en majorité, aussi des méthodistes venant aussi du Libéria, qui ont été renfloués après le passage de William Odearis par des Ivoiriens, qui sont venus timidement se mettre un peu dans ces communautés. Et donc ça a été tellement difficile que finalement, il est venu à l'esprit du Ghana de faire appel à la Société des missions de Paris pour aider. Voilà, en se mettant d'accord avec les missionnaires anglais, ils ont donc demandé que, puisque la mission a des difficultés pour progresser, il faut que les missionnaires français viennent prendre les devants de la mission. Et donc, sur leur appel, en accord avec la Société des missions wesleyennes, qui était au Ghana et tout ça, donc ça a été un accord qui avait été conclu entre ces deux missions pour que la mission de Côte d'Ivoire soit épaulé, par la soutenu par la mission, par les missionnaires français, les missionnaires protestants français. Ouais. Et les tout premiers qui sont venus, on parle de le premier contingent qui est descendu après cela, c'est Antoine Littel. Edmond Déby, lui, il est venu un peu après. Mais Antoine Littel, Pierre Benoît, qui s'est intéressé à l'œuvre de William Wadiaris, qui est allé même au Libéria pour le rencontrer, Pierre Benoît. On situe l'arrivée des Français autour des années 1924. Ils sont venus donc pour négocier la rouverture de la mission auprès de l'administration coloniale et vraiment prendre les devants de la mission. Et lorsqu'il s'était agi de donner, de donner un nom, parce qu'ils étaient venus, mais en fait, ils étaient venus un peu en collaboration avec les missionnaires anglais de la société méthodiste wesleyenne. Et donc, ils ont eu cet accord entre eux pour conduire les affaires de la mission. Et alors que c'était des missions méthodistes au départ, les missions étaient plutôt intégrées dans le vaste ensemble de l'œuvre qui se faisait au niveau de l'Afrique occidentale. Et donc, la Côte d'Ivoire est entrée de façon officielle dans les missions de l'Afrique occidentale française, AOF. Et donc, les missions de l'AOF sont les missions protestantes. Et donc, au niveau de l'accord qu'ils ont eu avec les Anglais, pour permettre que peut-être la mission reflète aussi l'œuvre des Anglais, ils ont voulu donner un nom, finalement, à ces missions en Afrique occidentale, et ils ont trouvé le nom de mission protestante, c'est la partie française, et puis méthodiste, la partie anglaise.
Un compromis dans le mot.
Et qui a permis donc à ces missions d'évoluer donc en église protestante, méthodiste. Donc, qui montre bien la collaboration entre les protestants venus, les missionnaires protestants venus de France, et puis les méthodistes venus de l'Angleterre. C'est comme ça que l'église a commencé, et donc avec beaucoup de difficultés avec les catholiques au départ, qui ne voulaient pas. Vous savez, la France étant la fille mère de l'église catholique, les parents qui étaient protestants avaient beaucoup souffert de leur foi, avec quelques petites persécutions venant des frères catholiques. Ça a été après 1924, 1930, jusqu'à 1940, 1950, même par là, il y a eu beaucoup de souffrances pour les protestants. Et donc, avec les Français, on a évolué jusqu'en 1963, où pendant ce temps-là, la direction de la mission était partagée entre Français et parfois aussi Anglais. Et puis en 1963, la Côte d'Ivoire a élu son premier chairman, son premier président, à la personne du pasteur Samson Nandui, en 1963. Et en 1964, pour marquer l'histoire de la mission protestante en Côte d'Ivoire de 1914, 50 ans, le jubilé, il y a eu donc l'installation du premier président à coïncider avec les 50 ans de l'Église, et ça a été une grande fête. Le jubilé qui a donné d'ailleurs le nom au temple de jubilé. Le temple a été réalisé comme symbole de cette étape importante de la vie de l'Église, dont le collègue, le pasteur. Alors, lorsqu'on a donc arrivé au jubilé, il faut dire que la mission, les Français, à partir de 1964, les Français ont commencé à se retirer. Leur mission est terminée. Ils sont venus conduire la mission jusqu'à un point. L'Église est devenue maintenant une Église officielle, avec un président ivoirien. Donc, les Français ont commencé à se retirer pour permettre aux Anglais de poursuivre leur travail tranquillement, parce qu'il n'y avait plus de problèmes politiques et tout cela. Donc, on note qu'à partir de 1949, les Français étaient déjà en retrait. Jusqu'aux années 70, pratiquement, ils sont 70-75 au plus tard, les Français ont complètement quitté la Côte d'Ivoire.
D'accord.
Il y a l'un d'entre eux qui est resté longtemps ici au plateau, c'est le pasteur Pierre Cadier. Le pasteur Pierre Cadier est resté longtemps au plateau ici. Mais sinon, à partir de 70-75, les Français se sont pratiquement retirés. Bon, et puis on a évolué avec les Anglais. Les méthodistes anglais jusqu'en 1985, où ils ont estimé que nous sommes assez mûrs, que nous pouvons maintenant nous-mêmes prendre nos affaires en main.
Ouais.
Et nous ont lâchés. Bon, ils ont lâchés, on s'est entendu, pour qu'ils puissent aussi nous laisser le travail, pour que nous puissions continuer. Et donc on a célébré ce qu'on a appelé l'autonomie de l'Église vis-à-vis de l'Angleterre. Bon, de 85 à 2000, lorsque nous sommes devenus autonomes, avant qu'on ne le devienne déjà, les pères fondateurs, les premiers pasteurs, ont estimé qu'il faut qu'on ouvre davantage nos relations avec le monde chrétien protestant. Et donc, pour cela, on a intégré beaucoup de structures, beaucoup d'organismes, comme la CETA, la CEVA, le Conseil œcuménique des Églises, beaucoup d'autres organisations. Aussi, en Afrique occidentale, il y avait l'association, les protestants de l'Afrique de l'Ouest et tout cela. Il y a eu beaucoup d'organisations dans lesquelles on est entré.
Vous intégriez des réseaux.
Voilà, des réseaux.
Pour
ne pas être isolé. Et c'est ce qui a permis à l'Église d'être quand même assez, sur le plan international, quand même être connue avec les autres. On a été fondateur donc de la CETA, la conférence des Églises de toute l'Afrique. Lorsque la CETA naissait, l'OUIA, l'Organisation de l'Unité Africaine, aussi venait. Et donc, pour les protestants, c'était qu'on créait la CETA pour être un peu l'accompagnateur du point de vue religieux spirituel de l'OUIA, où les nations africaines se retrouvaient aussi dans cette organisation. Et c'est comme ça que nous avons évolué.
Avec cette grande histoire fondatrice, aujourd'hui, l'histoire est moins tumultueuse de l'Église méthodiste.
Voilà, l'histoire est moins tumultueuse. Disons qu'on est passé des moments difficiles, à un moment de, on est nous-mêmes, l'État aussi a favorisé quand même la présence des églises, donc on est là, mais on est la mission protestante ou évangélique la plus ancienne ici en Côte d'Ivoire. Ça, l'État le reconnaît. Dans le protocole d'État, nous avons, au niveau des missions protestantes, nous sommes en tête. Voilà, nous sommes en tête. Et donc ça, l'État l'a toujours reconnu jusqu'à ce jour. Alors, lorsque nous avions donc acquis l'autonomie en 85 et que les pères fondateurs ont émis cette volonté de vouloir vraiment s'ouvrir davantage, les premiers dirigeants de la conférence, qu'on appelle la conférence, c'est-à-dire l'ensemble des églises protestantes méthodistes en Côte d'Ivoire, dont l'actuel bishop a été l'un des secrétaires les plus en vue, très dynamique dans la mise en place de l'organisation de l'Église sortie de l'autonomie. Et donc, il y a eu beaucoup de recherches pour aller dans tous les sens pour que nous soyons davantage connus dans le monde et tout cela. Et lorsque il a été appelé par l'Église pour la diriger en 1998, il s'est rappelé un peu de tout le travail qui a été abattu et estimé que avec les relations que nous avions déjà avec l'Église méthodiste unie, qui à la faveur de la crise, de la longue crise au Libéria, a travaillé avec nous pratiquement. C'est ici que les méthodistes unis passaient pour pouvoir aider les méthodistes libériens dans leur situation. Ça a favorisé les relations entre l'Église méthodiste unie et l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Et donc, le président Boni venant à la responsabilité, a estimé qu'il fallait réchauffer les anciennes relations qu'on avait avec les frères méthodistes unis. Et puis quand on y est allé, les gens nous ont bien accueillis. Et ils ont accueilli vraiment, formé le désir de pouvoir vraiment travailler ensemble avec eux, parce que nous avons ici nos frères libériens, c'est vrai qu'il y a le Ghana, nous sommes ensemble ici et tout ça, que nous puissions vraiment voir comment est-ce que nous pouvons collaborer. Et puis de ce qui a été amorcé petitement, ça aboutit donc à une décision, une grande décision, en 2001, d'intégrer l'Église méthodiste unie du monde, l'Église méthodiste unie du monde. Et nous y sommes allés avec beaucoup de faste, parce que la décision a été prise à l'unanimité de tous les fidèles réunis en conférence. Et nous avons donc depuis 2001 amorcé notre intégration à l'église méthodiste unie qui a vraiment pris fin en 2003. Nous avons fait la fête de l'intégration et puis en 2008, c'est devenu tout à fait effectif. Voilà. Et là, comme nous sommes entrés dans un genre de réseau des églises méthodistes, ça a joué sur nous dans le sens où nous avons été obligés de changer le nom de l'église pour nous adapter un peu à ce qui se fait dans cette église de façon tout à fait formelle. Mais dans le fond, il n'y a rien qui a changé parce que je sais qu'il y a un débat au niveau de l'Europe, de nos anciens missionnaires qui ont appris qu'on a fait ce bond-là. Qui disent, bon, mais maintenant l'église a changé, ce n'est plus la même église, c'est maintenant devenu l'église, c'est pas l'église qu'ils ont connue et tout cela. Bon, à les entendre dire, on ne sait pas trop ce qui a changé. Hein. Nous restons tous ce que nous sommes, ce que nous avions appris de nos missionnaires, c'est ce que nous sommes encore aujourd'hui. Et ce qui fait particulièrement notre richesse dans les pays francophones protestants, c'est nous qui sommes passés aussi, qui avons eu la visite des missionnaires méthodistes, c'est la richesse de la liturgie. Nous avons une liturgie très riche ici, parce que notre liturgie du culte intègre la liturgie méthodiste, la liturgie de l'Église réformée de France, aujourd'hui l'Église protestante unie de France, et puis depuis que nous avons intégré aussi l'Église méthodiste unie, bon, la liturgie aussi de l'Église. Donc nous avons un patrimoine liturgique assez riche. À l'occasion de 500 ans de la réforme protestante, personnellement j'ai animé des émissions sur pratiquement une année sur la réforme protestante. Sur la réforme protestante pour faire l'histoire de la réforme protestante et puis relever tout ce que la réforme protestante nous a apporté. Nous qui n'étions pas européens mais qui de loin avons beaucoup reçu la réforme protestante et donc nous avions passé vraiment l'année avec beaucoup d'informations sur la réforme protestante. Et en terminant, nous avions peut-être pas fait une cérémonie en tant que telle, mais nos églises ont vécu à leur manière, à partir d'un mot que le bishop nous a demandé de concevoir pour que ce soit lu dans les églises. Toutes les églises ont vécu bien la réforme protestante. Et donc, ça a été pour nous beaucoup de joie de partager ces informations avec beaucoup de questions des auditeurs. Le mot protestant nous rappelle l'histoire difficile de nos parents qui ont beaucoup souffert du catholicisme rampant qui voulait absolument mettre fin à une église qui existerait au nom des protestants ici en Côte d'Ivoire. On a beaucoup souffert. Je sais que la persécution en France, bon, ça a été dur aussi pour les protestants français, mais ça s'est vraiment déporté aussi sur le terrain des missions, et on en a beaucoup souffert ici. Et donc quand on évoque le mot protestant, les anciens se rappellent un peu ces temps de souffrance. Bon, on a fini par triompher de tout ça. Donc c'est parce qu'on est passé par des moments difficiles, mais on a pu triompher de tout cela.
Émission produite par FM Plus 91 FM à Montpellier, en collaboration avec la CEVA, la communauté d'église en mission.